Vous fêtez vos 160 ans en tant qu'Église. C'est aussi en tant qu'union d'Église, en tant qu'association baptiste, que nous sommes heureux de partager avec vous ces moments. Et je suis là aussi en tant que représentant de cette famille d'Église qui est la nôtre, pour vous dire aussi notre reconnaissance pour tout ce que l'Église de Mulhouse est et a été pour notre union d'Église. Je l'ai souligné vendredi, un pôle de stabilité, un pôle de formation, un pôle de rayonnement, un pôle de générosité. Et les choses continuent, nous continuons à vivre ensemble et à servir le Seigneur ensemble. Et je suis très très heureux de partager ces moments avec vous. C'est aussi un petit peu un retour à mon enfance, puisque Mulhouse, c'est les 10 premières années de ma vie. J'ai quelques petits souvenirs quand même. Quand je suis au sous-sol, là, ça me rappelle la garderie, des choses comme cela. Je suis très heureux d'être parmi vous. Mais nous voulons maintenant ouvrir ensemble la parole de Dieu en cet anniversaire. Et j'ai choisi un texte qui se situe à une étape aussi de la vie du peuple d'Israël. Et c'est la façon de marquer une étape que j'ai essayé de considérer au travers de ce texte. C'est lors de la conquête du pays de Canaan donné par le Seigneur à son peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était entré dans le pays de Canaan après 40 ans dans le désert, après avoir été libéré de l'esclavage de l'Égypte. Et après une première conquête rapide, il s'agit maintenant d'entrer plus en avant vers la possession du pays. Et donc, on distribue le pays aux différentes tribus. Et c'est ici que nous nous situons. C'est le tout début de cette répartition du territoire à conquérir. Nous lisons dans le livre de Josué, au chapitre 14, les versets 6 à 15. Josué 14, versets 6 à 15. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephthuné, le Kénien, lui dit, « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, toi et moi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour espionner dans le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a parlé ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici, âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il y avait là des Anakim, des géants, et qu'il y avait de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les déposséderai, comme le Seigneur me l'a dit. Jusqu'ici notre lecture. Que faire de 160 bougies ? Un anniversaire comme cela, bien entendu, on le fête. On s'en réjouit. On est plein de reconnaissance envers Dieu. 160 bougies. Cela représente tellement. La BN est la doyenne des églises de notre association, et quel âge respectable. Elle a connu 3 siècles différents, ça a été dit dans une prière tout à l'heure. Elle a traversé 1 empire et 4 républiques. Elle a survécu à 3 guerres. Elle a vu le déclin de bien des modes, la remise en question de bien des acquis, le renouvellement de bien des générations. Et elle est toujours là, bien vivante. C'est immense. Quelle grâce, quelle fidélité de Dieu. Quelle reconnaissance aussi pour ce que l'Église a apporté. Un témoignage à l'Évangile ici, dans cette ville, pendant toutes ces années. Au niveau de notre association baptiste, pendant plusieurs décennies, Mulhouse a été au cœur de tout ce qui s'est fait. Vous avez le record des conférences et des conventions organisées. Et vous allez continuer, 2017. Le centre de culture chrétienne a été pour un grand nombre de responsables laïcs ou à plein temps un lieu de formation. On venait du Nord, du Sud, de Suisse pour suivre ensemble les cours de formation. Dans ce même temps, l'Église a été, par effet collatéral, une heureuse plateforme matrimoniale, tout en restant une Église très sérieuse. Il fut un temps aussi où Mulhouse était la référence dans l'association baptiste. Les chignons mulhousiens, par exemple, souffraient très peu la concurrence. Plus sérieusement, l'Église de Mulhouse a manifesté un vrai souci pour l'implantation autour d'elle, à partir d'elle, ça a été rappelé. Elle a été pendant des années un centre d'édition dans notre association, à l'époque où les ordinateurs, les imprimantes n'existaient pas encore. Impression de cours, de tracts, d'évangélisation, de brochures, tout un ministère. En ce qui me concerne, l'odeur d'encre d'imprimerie au sous-sol du 9 rue des Charpentiers, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Toute mon enfance remonte dès que je sens cette odeur-là. Je revois mon père, je vois mon oncle Raymond, Monsieur Hammer, Gerda, Jeanne, Christa, tous ces gens qui étaient impliqués dans ce ministère. Mulhouse, c'est aussi l'écologie avant les verts. Le recyclage du papier, selon Robbie User, c'était quelque chose. Mulhouse, c'est encore les colonies de roches, des générations d'enfants marqués, j'en fais partie. Le lien fraternel depuis des années. Une église qui a réussi sa révolution culturelle. Et aujourd'hui, un témoignage et un engagement dans sa ville, un moteur des dynamiques de communion entre églises évangéliques locales et départementales. 160 bougies, incontestablement, cela représente beaucoup. Vos 160 bougies représentent énormément. Mais la question doit être posée. Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire de ces 160 bougies ? Nous venons de lire dans le livre de Josué un texte qui parle lui aussi d'une étape de la vie du peuple de Dieu. Israël est entré dans le pays que Dieu lui a promis après 40 ans de marche dans le désert. Une première phase lui a permis de posséder le territoire, mais maintenant, nouvelle étape, il revient à chaque tribu d'élargir et de sécuriser son territoire. Chaque tribu reçoit une partie du pays en possession, mais cet héritage est encore en grande partie à conquérir. Ces étapes, comme notre anniversaire aujourd'hui, sont marquées par des repères clairs. Le passage du Jourdain a marqué l'entrée dans le pays promis, Josué 3. Le tirage au sort du pays marque la responsabilisation de toutes les tribus, Josué 14 et suivant. Ce qu'il faut constater, c'est qu'entre ces repères très clairs, les transitions se font, elles, de manière souple et progressive. Le neuf et l'ancien se mêlent constamment au passage des étapes. Entré dans le pays promis, Israël vit encore pendant tout un temps dans des campements. Il faudra du temps avant d'habiter les villes et les villages. Une première conquête sous Josué libère l'espace, mais ce n'est qu'un début, il faut s'étendre, se consolider. On s'appuie alors sur ce que Dieu a fait, bien sûr, sur ses promesses déjà réalisées, mais maintenant, fort de tout cela, il faut avancer. Et il faut que chaque tribu s'engage, prenne sa responsabilité. Et voyez que tout s'imbrique par tuilage. Le passé, le présent, le futur s'interpénètrent constamment. L'anniversaire de vos 160 ans, pareillement, est un repère. Mais votre réalité, fondamentalement, se construit, elle aussi, par imbrication de votre présent, de votre passé, de vos projets. Vous avez 160 ans, c'est bon de regarder en arrière. Mais avoir 160 ans pour une église, est-ce un aboutissement ou un appel ? Alors nous, me direz-vous, pour nos 160 ans, on veut regarder vers l'avant, on veut faire du neuf. C'est magnifique. Mais ce faisant, vous êtes riche aussi et redevable de tout ce qui vous a amené jusqu'ici. La génération qui a 20 ans aujourd'hui, hyper connectée, vit dans un tout autre monde que la génération fondatrice de l'Église en 1856. Et pourtant, c'est grâce au témoignage à son époque et dans son contexte d'un Jean Vaugelle, brossier de son état, que nous sommes là aujourd'hui. Les papis et les mamies qui ont aujourd'hui 70 ans et qui tentent de suivre comme ils peuvent tous les changements induits par la technologie ont été dans leur jeunesse des gens qui étaient pleins d'entrain, de découverte de l'Évangile. Ils ont cheminé avec ce qu'ils ont reçu et c'est ce qui fait que nous sommes là aussi aujourd'hui. C'est passionnant de voir chaque génération prendre sa place. Chaque génération recevoir de celle qui la précède, innover, poser ses propres jalons, se consolider, puis passer le relais. La vraie histoire, c'est cela. Le Seigneur agit de génération en génération. Chacun de nous est précédé et sera dépassé par d'autres jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et chacun prend sa place pendant le temps qui lui est donné en interaction avec les autres. Mais comment prendre notre place ? Dans quel état d'esprit ? Dans notre texte, nous assistons à une scène assez étonnante. C'est le moment où on va tirer au sort le partage des tribus, le partage du pays, entre les 12 tribus d'Israël. C'est une étape nouvelle, décisive, pour l'avenir d'Israël. On a choisi pour cela, d'ailleurs, un lieu de mémoire, Gilgal, où est dressé un monument qui rappelle l'entrée dans le pays promis avec 12 grosses pierres prises dans le Jourdain au moment du passage. Et on s'apprête, fort de ce passé, à aller vers l'avant, à tirer au sort la part des tribus et de la première, Juda. Et voilà qu'à ce moment-là, un homme sort du rang. Il s'avance vers Josué. Il semble vouloir dépasser tout le monde, court-circuiter ce qui est en train de se mettre en place. En regardant l'ensemble de la foule présente, avec tous les représentants de toutes les tribus d'Israël, on est choqué par un fait étrange. Cet homme, ainsi que Josué, sont bien plus vieux que tous les autres. Et les seuls, absolument les seuls, de leur âge, dans tout Israël. Les deux hommes se font face, Josué, Caleb. Leurs visages sont brûlés par le soleil. Ils ont 85 ans. Ceux qui les suivent ont 25 ans de moins. Un fossé générationnel immense qui les distingue de tous les autres. Vous vous rendez compte ? Deux seuls représentants de leur tranche d'âge et ensuite, on passe 25 ans après. Tous ceux qui manquent sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité, à cause de leur révolte. Ils sont les seuls de leur âge. Personne au-dessus, personne à moins de 25 ans d'écart. Les deux hommes se parlent et soudain, c'est toute l'histoire qui s'invite dans ce vis-à-vis. On est ramené 45 ans plus tôt. L'un et l'autre avaient alors 40 ans. Ils avaient été envoyés en Canaan comme représentants des tribus d'Israël avec 10 autres pour explorer ce pays, pour en faire un rapport et pour inviter le peuple à avancer. À leur retour, tous avaient bien décrit la richesse de ce pays que Dieu leur donnait, mais leurs compagnons avaient totalement découragé le peuple en décrivant tous les obstacles qu'il faudrait affronter. Et seul face à tous, Josué et Caleb avaient tenu un langage différent, celui de la confiance en Dieu. En vain, le peuple s'était révolté contre Moïse, contre Dieu. Résultat, 38 ans d'errance, à tourner sans but dans le désert. Toute la génération qui avait refusé de croire avait péri dans le désert. Et maintenant, arrivé sur l'autre versant de l'histoire, arrivé à l'heure du partage effectif du pays, partiellement conquis, ces deux hommes sont là encore, face à face, frères de foi, rescapés d'une longue épreuve, témoins de la fidélité de Dieu à ses promesses, comme à ses jugements. Les deux compagnons d'autrefois ont eu des rôles différents pendant toutes ces années. Josué a pris la succession de Moïse dans un rôle de direction. Caleb, lui, est resté au sein du peuple. À l'époque du premier rapport des espions, c'est Caleb qui avait tenu le rôle principal. C'est lui qui avait pris la parole seul devant tous. Josué s'était rallié à lui de tout cœur, bien sûr, mais Caleb avait été l'homme de la situation. Moïse lui avait fait alors une promesse. « La terre que tu as explorée, elle sera pour toi et pour tes fils à perpétuité. » Et c'est cette promesse que Caleb fait valoir devant Josué maintenant, avant que ne commence le partage du pays. Quel est le but de Caleb? Que pouvons-nous imaginer, reconstituer, bien sûr? Caleb chercherait-il à protéger ses intérêts personnels? Au nom de son ancienneté, au nom de ses titres de gloire d'autrefois, demande-t-il sa part du gâteau avant les autres, en tant qu'ancien combattant? Grille-t-il la priorité aux tribus parce qu'il s'estime au-dessus du lot? On pourrait l'imaginer. Mais Caleb, dans toute cette démarche, ce qu'on voit de cette démarche, semble très loyal dans ce qu'il accomplit. Il s'avance avec les gens de sa tribu. Il respecte Josué dans sa position de chef. Et si l'on veut bien comprendre sa démarche, il faut considérer la nature de sa demande. Il ne demande pas qu'on lui donne un territoire tout conquis pour une retraite bien dorée. Il demande un territoire qu'il reste à conquérir. Il demande un territoire difficile, avec des villes fortifiées, où habitent certains géants qui avaient tellement effrayé Israël autrefois. C'est cela qu'il demande. Tout son élan tourne non pas autour de son bien-être, mais autour de la conquête qu'il veut réaliser, dans laquelle il veut s'engager. Et c'est pourquoi il s'avance. C'est cela la raison pour laquelle il s'avance, se met en avant. Et voyez ses propos. L'Éternel m'a fait vivre, comme il l'avait dit. Caleb reconnaît la grâce d'être encore vivant, alors que tous les autres membres de sa génération ont péri au désert. J'ai encore autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat. Là, peut-être qu'il en rajoute un peu. En tout cas, pour ce qui est des forces physiques. Mais mentalement, incontestablement, c'est le même homme. La même détermination qu'autrefois. Et sa requête est remarquable. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, où habitent les fils d'Anak, où il y a de grandes villes fortifiées. Que le Seigneur soit seulement avec moi, ou si le Seigneur est avec moi, je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Qu'est-ce qui anime Caleb? Un esprit d'engagement, de foi. Il veut entrer dans ce que Dieu a promis. Il veut être partie prenante de ce qui se fera. Il veut donner l'exemple. Il veut entraîner par son exemple. La situation de 45 ans au-delà ne se reproduira pas au moment crucial du partage. Il ne veut pas. Et il s'avance. Et il se présente avant tous pour encourager tous les autres, pour donner un modèle, pour donner envie de le suivre. Et Josué le comprend bien. Il bénit Caleb et lui donne Hébron pour héritage. Hébron qui reste à conquérir avec ses fortifications, avec ses géants. Mais le ton est donné. La répartition du territoire va pouvoir se faire dans un bon état d'esprit, avec de justes perspectives. C'est ce que Caleb fait, permet en s'avançant. Le découragement et l'encouragement. Il suffit de peu, on le sait, pour décourager, pour démoraliser tout un groupe. Quelques paroles défaitistes, quelques propos critiques suffisent à tout plomber, à faire baisser les bras. Quelques mots qui, parfois, au nom d'un pseudo-réalisme, noircissent tous les obstacles, montent en épingle tout ce qui ne va pas. Tous les géants que l'on va rencontrer sur sa route, toutes les montagnes qui se dresseront. C'est ce qu'on dit parfois, c'est ce qu'on souligne parfois au nom d'un certain réalisme, mais en oubliant de mettre en face les ressources, les promesses de Dieu. Cela avait été l'expérience affreuse vécue par Caleb autrefois, avec toutes ses conséquences pour sa génération. Il choisit donc la posture opposée. Il veut donner le ton positivement. Il veut marquer d'emblée une tonalité qui encourage et non pas une tonalité qui décourage. Et une tonalité qui encourage non par la parole seulement, mais par l'exemple aussi, par un regard positif sur l'avenir qui se traduit en acte, par une foi qui se traduit en action. Qu'allez-vous faire de vos 160 bougies ? Caleb a pris sur lui très personnellement la responsabilité d'être quelqu'un qui donne le bon ton. Il a considéré qu'il avait très personnellement quelque chose à apporter pour le bon état d'esprit de tous. Il ne s'est pas dit que c'était aux autres qu'il revenait de le faire. Il a considéré que c'était sa place à lui que de faire cela, que c'était sa pierre à lui à apporter sa contribution avec son expérience, avec à lui, avec son parcours particulier, avec sa place au sein du peuple. Et en ce jour anniversaire de votre Église, j'aimerais vous encourager chacun à développer le même état d'esprit. Nous sommes chacun partie prenante de ce qui encourage ou de ce qui décourage, de ce qui favorise un état d'esprit positif ou un état d'esprit négatif. Ayons à cœur, comme Caleb, d'apporter notre note positive. Pas besoin pour cela d'être un héros. Pas besoin pour cela d'avoir toutes sortes de médailles, de je ne sais trop quel engagement. C'est l'état d'esprit que vous mettez dans ce que vous faites, là où vous êtes. C'est cela qui compte. C'est votre sourire. C'est votre joie d'agir. C'est votre empressement à vous proposer. C'est cela qui marque une différence. Ayez à cœur de donner une note positive à ce qui va continuer. Vous êtes, me semble-t-il, dans une phase de vie d'église où bien des choses avancent positivement, peuvent susciter l'adhésion, donner envie d'aller de l'avant. Encouragez-vous les uns les autres dans ces dispositions. Soyez des Caleb les uns pour les autres. Veillez à chaque génération d'être un exemple et un entraînement pour les générations qui viennent après vous. si vous le faites, la flamme de vos 160 bougies ne s'éteindra pas ce 6 novembre 2016 au soir. Si vous le faites, vous deviendrez de ceux qui prennent part au miracle de la continuation d'une Église. Donne-moi cette montagne, demande Caleb à Josué, devant tout le peuple présent autour de lui. Quelle est belle cette demande, quelle santé, quelle vision! Donne-moi cette montagne, là où il nous arrive à nous de faire d'une petite taupinière un obstacle insurmontable. Voilà quelqu'un qui demande une montagne, qui la veut cette montagne, qui s'engage pour cette montagne et qui rallie autour de lui. Donne-moi cette montagne, demande Caleb. Il a un objectif très clair. Il sait ce qu'il vise, il sait ce qu'il veut atteindre. Il est évident qu'avec un objectif bien défini, il est plus facile de se mobiliser, de mettre en œuvre une action. Qu'allez-vous faire de vos 160 bougies? Vous avez en tant qu'Église de beaux projets, la rénovation de vos bâtiments, une Église qui fait de l'accueil son grand mot d'ordre. Et pas juste l'accueil pour qu'on vienne à nous, qui va vers les autres aussi. Un rayonnement de l'Évangile par toutes sortes d'actions. Un bonheur à vivre, à partager. Mais j'aimerais vous encourager à vous unir autour de ces projets. À les faire vôtre, tout comme Caleb qui disait « Donne-moi cette montagne-là, je la veux. » En faire vos objectifs personnels. À en rêver un peu de ces projets, vous-même. Allez prier ces projets, allez mettre sur votre cœur, qu'ils ne soient pas simplement les projets de l'Église, mais qu'ils deviennent les vôtres. Donne-moi cette montagne. Qu'ils deviennent ce qui vous anime aussi dans votre désir de servir et d'aller de l'avant. J'aimerais peut-être juste ajouter une précision. Cette montagne dont nous pouvons faire un objectif très précis et le demander au Seigneur, ne se réduit pas à un grand projet d'Église. Cela peut être aussi très simplement tel progrès de ma vie spirituelle à moi, tel aspect de ma sanctification. Travailler sur ces aspects basiques de notre vie, c'est travailler sur les fondamentaux. Et ces fondamentaux sont la clé de tout. Sans fondamentaux, on ne construit rien dessus. Ils sont aussi la base, ils sont la base d'une vie heureuse avec Dieu. Ils sont la base aussi de tout ce que l'on peut apporter à l'Église. Qu'allez-vous faire de vos 160 bougies? Toute avancée de votre vie personnelle, de votre foi personnelle, peut contribuer elle aussi au miracle de la continuation de la vie de l'Église. Ayez à cœur de demander aussi au Seigneur cette montagne-là. Pour vous, pour l'Église. Donne-moi cette montagne, demande Caleb. Caleb veut prendre sa part. Il veut s'impliquer personnellement dans la conquête. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que cette conquête, il ne va pas la réaliser tout seul. Il a des fils, des filles, des gendres. Ensemble, ils vont s'impliquer. Et le livre de Josué nous montre même que Josué lui-même, avec une partie du peuple, va soutenir son compagnon, lui prêtant des renforts. C'est souligné au chapitre 11, verset 21. Ce qui veut dire que les avancées se font solidairement dans le peuple de Dieu. Il faut des gens qui y croient, bien sûr. Il faut des gens qui prennent et assurent leurs responsabilités, mais tout en gardant le sens du bien commun. Qu'allez-vous faire de vos 160 bougies? Cultivez cet état d'esprit qui unit responsabilité de chacun et solidarité, implication personnelle et soutien mutuel, comme ça a été le cas pour Caleb dans la conquête d'Hébron et de sa région. Donne-moi cette montagne, demande Caleb à son ami Josué. Hébron et les villes fortifiées qui étaient autour, les villages fortifiés qui étaient autour, étaient à la limite du désert de Juda au sud du territoire. Ce n'était pas l'endroit le plus fertile. Ce n'était pas l'endroit le plus hospitalier du pays. Ce n'est pas cela qu'il a demandé. Mais Hébron et les villages qui étaient autour étaient un enjeu stratégique. C'est là qu'habitaient les fils d'Anak, des hommes imposants, des guerriers redoutables et redoutés. Hébron, précise notre texte, s'appelait alors la ville d'Arba. Et Arba était le plus fameux de ces géants. Donne-moi la ville du plus fameux de ces géants, demande Josué. Demande Caleb, pardon. Il fallait faire sauter ce verrou. C'était important. C'était important que quelqu'un ose affronter cette place-là, cette place forte-là. Et Caleb s'est fixé sur ce qui était important. Et c'est pourquoi il a dit « Donne-moi cette montagne-là ». Nous avons besoin de cela, n'est-ce pas ? Attacher nos cœurs, pas juste au plus immédiat, mais au plus important. Attacher nos cœurs non pas au plus confortable, mais au plus utile, au plus stratégique pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple de Dieu. Attacher nos cœurs non pas au plus sécurisant, mais à ce qui fera avancer, à ce qui nous affermira dans la bonne direction, à ce qui permettra de vraies avancées significatives. Donne-moi cette montagne. Caleb n'a pas demandé la difficulté pour la difficulté. Mais c'est vrai que l'image de la montagne évoque aussi la difficulté, l'exigence d'un obstacle à franchir. Et c'est vrai que certains objectifs nous semblent parfois des montagnes insurmontables. La demande de Caleb à Josué peut devenir alors comme notre prière à Dieu. « Seigneur, donne-moi cette montagne, donne-la-moi, permets-moi de la conquérir. » Ou comme le dit une autre prière que j'ai souvent faite mienne, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Qu'allez-vous faire de vos 160 bougies ? Acceptez ces défis qui peuvent ressembler pour vous à des montagnes, pas forcément que ce soit nouveau des grandes choses, mais qui pour vous semblent être peut-être des montagnes ou qui le sont véritablement. Acceptez d'être confronté à ce qui peut vous sembler peut-être au départ être comme des géants. Mais ne le faites pas de manière présomptueuse. Comme Caleb, restez humble et dépendant, tout en étant pleinement déterminé. Car écoutez ce que dit Caleb, « Si le Seigneur est avec moi, alors je les chasserai, ces géants. Si le Seigneur est avec moi. » Caleb ne s'appuie pas sur ses propres forces. La différence, c'est la présence et l'action du Seigneur qui la feront. Et Caleb précise, « Si le Seigneur est avec moi. » Ou dans d'autres traductions, l'Éternel sera peut-être avec moi. Quoi ? Si le Seigneur est avec moi, l'Éternel sera peut-être avec moi. Est-ce que Caleb douterait de tout en s'engageant ? Certainement pas. On le voit rappeler la promesse que Dieu lui a faite autrefois et s'appuyer sur elle. Hein, le Seigneur m'a dit que je te donnerai cette montagne. C'est ça ce qui fait qu'il s'appuie. Alors pourquoi si le Seigneur est avec moi ? Pourquoi peut-être ? Pourquoi cette nuance qui est mise ? Par respect pour le Seigneur. Par respect pour le Seigneur. Par respect pour la souveraineté du Seigneur. Par respect pour la liberté du Seigneur. Par respect pour rappeler que ce n'est pas moi qui dicte au Seigneur ce qu'il doit faire, mais que je reste ouvert à son action, que je reste ouvert à son vouloir, que je reste ouvert à sa manière d'agir. Certaines personnes aujourd'hui disent que la foi, c'est de dire « Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu sera là avec moi, quoi qu'il arrive. » C'est vrai, mais Caleb dit « Si le Seigneur, alors je peux le faire. » Le respect du Seigneur. Gardons toujours ce respect du Seigneur, cette pleine attente, cette pleine confiance, mais dans le respect du Seigneur. Qu'allez-vous faire de vos 160 bougies? Cultiver cet esprit de foi engagée, courageuse, fondée sur les promesses de Dieu, mais pleine de respect pour le Seigneur. C'est lui le chef de l'Église. Il l'a aimée, son Église. Il s'est livré pour elle. Il en est le sauveur. Il en est le berger. Il l'équipe de ses dons. Il la fortifie de son esprit. Il pourvoit à son renouvellement. Il marche au milieu des siens. Il est le Seigneur des seigneurs. Il nous tient en sa main. L'Église est sienne. Et dernière question. Que va-t-il faire de vos 160 bougies? Il est le premier, le dernier et le vivant. Amen.